Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Alors, après avoir parlé de la grève des enseignants, nous allons à présent parler de la navigation. Vous savez, il y a eu dernièrement plus de 50 morts enregistrés et plusieurs disparus lors du naufrage d'un convoi des pirogues motorisées. La catastrophe a eu lieu dans la nuit du lundi à mardi à la hauteur du village d'Engengele, à 24 km en amont de la ville de Bumba, dans la province de la Mongala. La surcharge et la navigation nocturne sans projecteur sont les causes de cet énième naufrage sur les cours d'eau de la RDC. De telles noyades, de telles catastrophes se produisent souvent en RDC, avec des bilans très lourds, des pertes en vies humaines et des matériels. Eh bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les cas des naufrages à répétition sur les cours d'eau de la République démocratique du Congo? Nous avons dans ces studios le professeur Jean-Dédieu Minengou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTED. Professeur Jean-Dédieu, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Merci. En ligne, Monsieur Didier Moukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo. Monsieur Didier Moukoma, bonjour. Monsieur Didier Moukoma, vous êtes là?
Oui, je suis là. Bonjour, bonjour. À vous et à tous les auditeurs.
Bienvenue dans cette émission, Monsieur Didier Moukoma. Vous avez suivi avec nous cet énième accident qui a fait plusieurs morts et plusieurs disparus du côté de Bumba, dans la province de la Mongala. Alors, d'après vous, quelles sont les solutions? Il y a toujours des naufrages à répétition. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, de manière efficace, pour prévenir ces genres de situations?
Merci. Avant d'abord de parler des solutions, je dois préciser que cet accident qui a eu dernièrement, il s'agit de pirogues. Ce ne sont pas des bateaux, donc ce sont des pirogues qui transportaient des gens qui venaient des marchés. Comme vous savez, à l'intérieur du pays, dans des villages, il y a des marchés qui se passent une fois par semaine dans des villages. Alors c'est un ce sont des
convois des pirogues motorisées.
Qui revenait d'un village vers l'ancienne province orientale pour Ngengele, donc tout près de Bumba. Alors ce sont ces pirogues-là qui ont chaviré suite à une pluie, et en plus aussi c'était pendant la nuit, alors il y avait aussi beaucoup de personnes, et comme vous savez c'était la rentrée scolaire, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'élèves aussi sur ces pirogues et qui avait connu cet accident. La cause, les causes, il y en a beaucoup.
On parle de la surcharge et la navigation nocturne sans projecteur.
Justement, vous voyez, ce sont des petites embarcations, alors ils n'ont pas de matériel de navigation nocturne. Et de deux, c'est la surcharge. Quand tu vois comment ces pirogues-là surchargent, en tout cas, pour moi, c'est trop exagéré. Et d'aider, normalement, quand ils ont surchargé comme ça, normalement, ils pouvaient pas transporter des passagers. Ou soit, normalement, il faut avoir des pirogues rien que pour les passagers, et des pirogues avec le transport des marchandises. Mais quand ils mélangent avec la marchandise et les passagers, ça fait des surcharges, et puis ça fait qu'il crée aussi beaucoup d'accidents. Mais là, il y avait la pluie, c'était pendant la nuit, ils étaient en train de naviguer, il y a une autre pluie, et c'est ce qui a causé cet accident. Mais c'est pour cela, la première chose est que l'État doit prendre en charge le transport des passagers. Ça, c'est la première chose. La première solution qu'il faut est que l'État puisse prendre en charge le transport des passagers. Et quand il n'y a pas un bateau ou bien des moyens appropriés pour le transport des passagers, ça, c'est la première grande cause qui cause les accidents. Et la deuxième cause aussi, c'est nos administrations. Vous savez, nous avons des commissaires fluviaux, nous avons les agents de l'État qui sont commis dans des ports, dans des lieux où les bateaux font des déplacements, mais ils ne tiennent pas à rigueur, ils ne sont pas rigoureux. Ce qui intéresse, moi, je peux dire que c'est l'argent, parce que quand vous voyez la façon dont ces pirogues ou soit ces baleinières, ou soit les bateaux qui chargent vraiment avec des conditions qui ne sont pas réunies, c'est vraiment inacceptable.
Mais avant de quitter le port, il faut une autorisation.
Justement, il y a une autorisation, c'est-à-dire il y a des commissaires fiviaux, des fois ils sont représentés par leur chef de poste.
Alors quand il y a navigation la nuit, c'est pour échapper au contrôle et tout ça.
Non, souvent c'est pas ça, c'est pas pour échapper, parce qu'avant de quitter, des fois ils quittent la journée et pour naviguer la nuit, ils quittent le soir pour naviguer la nuit pour arriver le matin. Par exemple, ces pirogues-là ont quitté dimanche pour arriver d'habitude lundi matin, c'est chaque fois qu'ils le font. Et les autorités sont là, les autorités portuaires, ils sont là, ils ont des papiers. Ils préfèrent naviguer la nuit parce que les courants dans la nuit est calme et puis il n'y a pas beaucoup pour eux, il n'y a pas beaucoup de danger pendant la nuit. Mais la plus grande responsabilité, c'est aux autorités portuaires qui laissent voyager ces bateaux dans des conditions qui ne sont pas normales. Vous remarquerez aussi même l'état de ces pirogues ou bien l'état de ces baleinières ou certains bateaux. Ça laisse à désirer. On contrôle plus. Il y a des bateaux qui te font 15 ans, 10 ans sans être contrôlés, sans passer au carénage, ce qui n'est pas normal.
Mais on accuse aussi les armateurs. Vous surchargez souvent les bateaux, les baleinières, parce que vous voulez vite gagner beaucoup de bénéfices.
Bon, justement, je n'en disconviens pas. Il y a beaucoup de gens qui surchargent pour avoir beaucoup de bénéfices, mais il y a l'État. Il y a l'État qui est là. Moi, je suis président des armateurs, mais je n'ai pas le droit d'aller arrêter un bateau qui a mal surchargé ou pas. Il y a un service de l'État, il y a les services de l'État qui sont là pour interdire les bateaux qui ont surchargé ou soit qui ne sont pas en état de navigabilité.
Donc, professeur Jean de Dieu Minengo, on va vous donner la parole. Quelles sont les solutions durables face à ces drames récurrents, les naufrages des bateaux, baleinières, pirogues, embarcations sur le fleuve et ses affluents?
Merci Jody pour la question. Je crois qu'avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à remercier la radio CAPI de m'avoir associé à ce débat. Je tiens à saluer également tous les auditeurs, mais plus particulièrement le président des armateurs, Didier Mokoma, de la Fédération des entreprises du Congo, avec qui nous avions travaillé sur certaines solutions pour réduire, transamper les accidents dans les voies navigables de la République démocratique du Congo. Donc, il a déjà planté les décors, il a déjà expliqué tout ce qui est à la base de ces naufrages que nous sommes en train de décrire dans les voies navigables de la République démocratique du Congo. Je voudrais les résumer en quatre. Les quatre principales raisons qui font que chaque année, la République démocratique du Congo enregistre en moyenne 100 cadavres par mois sur les voies navigables de la République démocratique du Congo. La première raison, il a dit, c'est la qualité des embarcations. Donc, vous avez le coin le plus reculé de la République démocratique du Congo, où les embarcations les plus sécurisées ne peuvent plus arriver. La deuxième raison, c'est la qualité du personnel navigant. Je crois que le président Mokoma l'a dit, à l'absence du contrôle, tout charlatan peut s'improviser comme commandant de bateau, il peut s'improviser comme quelqu'un qui peut piloter une pirogue motorisée, etc. Donc, le personnel
qualifié
pose problème. La troisième raison, et qui est fondamentale et la plus importante, là nous avions travaillé avec la Fédération des entreprises du Congo et l'administration de la République démocratique du Congo, c'est l'absence d'entretien et d'aménagement des voies. La navigation la nuit n'est pas totalement interdite, sauf dans des endroits dangereux. Mais si les voies sont très bien entretenues, si les voies sont très bien aménagées, avec des signalisations, les gens peuvent bien naviguer la nuit. La quatrième raison, je crois que...
Le dragage aussi est régulier.
Ça n'a plus lieu dans beaucoup de rivières, je vais revenir. La quatrième raison, c'est l'absence de contrôle. Il a parlé des commissaires fluviaux, des commissaires maritimes. Ils sont d'abord un nombre très réduit, il n'y en a même pas dans beaucoup d'endroits. Et là où ils existent, il n'y a pas un travail de qualité qui se réalise. Alors, de façon globale, je dis... Nous pouvons dire que dans le secteur des transports fluviaux en République démocratique du Congo, il y a des défis importants à relever.
Lesquels?
Le premier défi, c'est celui de financement pour l'entretien de ces voies. Le deuxième défi, je dis, qui est très important également,
c'est le défi des lois. Les textes qui régissent les secteurs fluviales en République démocratique du Congo, ce sont des textes qui datent de l'époque coloniale, qui ne sont plus adaptés dans les contextes actuels. Alors, je suis très content par rapport à la question que vous avez posée. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le pouvoir public de la Congo?
Professeur, vous permettez qu'on puisse accueillir deux auditeurs. Oui. Patrick Aimbe Likumbu fils nous appelle depuis Bumba, dans la province de la Mongala. Patrick, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, je commence d'abord à présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées et à toute la ville de Bumba qui est en deuil provincial de 3 jours. Dès l'entrée des jeux, je tiens d'abord à vous informer que les corps sa vie continuent à être retrouvés sur les fleuves Congo. Mais moi, je pense que par rapport à la thématique du jour, pour réduire les naufrages dans les cours d'eau de la République démocratique du Congo, il faut que les autorités prennent d'abord les responsabilités en main. Vous savez, ce qui s'est passé à Bumba, ça a un peu dérangé presque tout le monde. Vous comprendrez que la plupart des navigations, ou soit des embarcations qui quittent Bumba, c'est la nuit, hein, je dirais 20h, 21h, 22h, au vu des autorités compétentes. Je vous informe dans les villages où cet accident a eu lieu.
Ngengele.
Il y a des postes de la police, il y a des marais, il y a même les JDANR. Qu'est-ce qui se passe? Quand ces gens-là viennent, ils se rendent compte que bon, l'heure est déjà passée, ils négocient avec ces gens-là, on leur donne 1000 francs, 2000 francs. Regardez aujourd'hui, ça a coûté des vies, je vous dis, il y a des disparus jusque là, nombreuses des familles se plaignent, ils n'ont même pas vu leur corps. Tout ça se passe aux yeux des autorités compétentes. Raison pour laquelle moi j'aurais voulu que les responsabilités soient vraiment partagées, qu'il y ait une loi, qu'il y ait des mesures fermes qui feront que ces embarcations, s'ils veulent quitter au moins la journée. Moi, je me rappelle bien, au moins que je me trompe, si on lisait les codes fluviales, on ne permet pas l'embarcation après 16 heures et l'accostage. Mais ce qui s'est passé à Bumba, c'est plus pire. Tout ça, c'est de la pire corruption. Regardez, une simple corruption a coûté des vies. Bumba est en deuil, il y a plus d'une semaine que vous arrivez, la ville est vraiment calme. Partout, il y a des dettes et je vous dirais, il n'y a même pas l'assistance de la part des autorités. Aujourd'hui, matin, j'ai vu des corps sur les fleuves en état de décomposition grave. Il n'y a même pas déjà ou un service spécialisé pour faire sortir
les corps-là,
les enterrer en bonne condition. Ce sont quand même nos frères. Ce sont nos frères. Ça m'a tellement touché. C'est pourquoi nous demandons, surtout à l'État, de prendre ses responsabilités en main et de revenir à la raison. Et surtout, j'insiste que les responsabilités soient partagées. Qu'il y ait des enquêtes, parce que moi, je suis sûr, les services-là doivent répondre à leurs actes.
D'accord.
Pour éviter les corruptions, on ne peut pas sacrifier toute une vie de la population. Merci beaucoup.
Merci, Patrick AMB, depuis Bumba. Tamboué, vous êtes à Beni. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au naufrage?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. Je pense que après 6 mois ou soit 7 mois comme ça, c'est ma troisième intervention par rapport au naufrage qui est devenu répétitif à la République démocratique du Congo. Et de cela, moi, je pense que la grande responsabilité appartient à l'État, qui n'effectue pas son contrôle dans plusieurs secteurs. Monsieur Jody, au niveau de chaque port de l'État congolais, on trouve les agents qui contrôlent comment est-ce qu'on est en train de charger ces navires-là, ou soit ces bâtiments, parce que quand on charge les navires, moi j'ai l'impression que les navires ont toujours tendance à s'enfoncer dans l'eau. Et lorsqu'on dépense on dépasse le tonnage, il y aura toujours naufrage. Deuxième problème, il y a tout au long de nos rivières, il n'y a pas de panneaux de signalisation qui peut permettre à ce que les capitaines puissent à chaque fois savoir que dans telle part ou soit telle autre part, il y aura un danger. Troisième problème qui se voit est que la plupart de nos navires n'ont pas des éclairages et ils ont toujours tendance à effectuer des voyages pendant la nuit. Quatrième problème est que La plupart de nos navires sont déjà vétustes, c'est-à-dire que l'État doit savoir comment est-ce que donc déclasser certains navires qui ont été construits ou bien montés à telle ou telle autre année. Ce que je recommande à l'État congolais, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités, parce que nous sommes quand même fatigués avec des sinistres qui sont devenus répétitifs à la République démocratique du Congo dans tel ou tel autre secteur. C'est ça ma petite préoccupation. Merci beaucoup et bonne journée, monsieur Jody.
Merci Tambwe Kasongo de Beni. Monsieur Didier Mukoma, votre réaction? Il n'est plus là. Professeur Jean Didier.
Merci, je tiens à remercier les deux intervenants. Il y a notre ami Patrick qui a appelé de Bumba et Tamboué qui a appelé de Maniema.
De Beni.
De Beni, très bien. Je crois que j'étais en train de développer ce qu'ils viennent exactement de dire. Les deux défis importants relevés en République démocratique du Congo pour solutionner la question qui touche à la vie des millions de personnes. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont endeuillées.
Nous et on partageons la douleur,
nous les représentons, nos condoléances les plus attristées. Donc, le premier défi, comme je l'ai dit, c'est le financement. Comment entretenir le voie avec les moyens mobilisés en République démocratique du Congo? Quand vous allez dans la partie orientale du pays, vous avez beaucoup de lacs qui ont été entretenus, ça fait plus de 40 ans. Les ports sont remplis de sable et aucun navire ne peut accoster de façon responsable au niveau de ces ports. Le deuxième défi, c'est celui de la loi. Ils viennent de dire qu'il n'y a pas de gens pour faire les contrôles. C'est l'absence de loi. Et c'est le problème d'application de loi. Alors, qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo? C'est ça la question que vous étiez en train de poser. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour solutionner ces problèmes? Parce que chaque mois, on revient, il y a des naufrages, on parle.
C'est répétitif.
Et puis, ça revient, et on essaye de faire quelques déclarations, on s'arrête, voilà. Chacun rentre, il n'y a rien.
Et on attend le prochain naufrage.
Et on vient, on dit non. Voici ce que le gouvernement est en train de faire. Je voudrais parler surtout de la présidente de la République, parce que moi je ne suis pas membre du gouvernement. Au niveau de la présidence de la République, nous avons travaillé avec M. Didier Mokoma, des armateurs, qui a représenté la FEC. Nous avions travaillé avec le ministère des Transports. Nous avions travaillé avec le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Économie, tous les ministères sectoriels, pour réfléchir sur tout ce qui se passe sur les voies navigables de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait mettre sur pied un mécanisme qui devrait aider la République démocratique du Congo en tant qu'État à mobiliser les ressources nécessaires pour entretenir dans la durée les voies navigables. Et nous avons associé aussi les voies ferrées de la République démocratique du Congo. On a autour de 25 000 kilomètres de voies navigables, on a près de 5000 kilomètres de voies ferrées pour les entretenir. On ne va pas demander l'argent à l'Union européenne, moins encore à la banque. Ils n'auront pas cet argent pour nous donner chaque jour. Donc nous devons trouver un mécanisme. Et nous avons pensé que ce qui était fait avant avec la création du FONER, nous pouvons adapter ça dans ce qu'on appelle les voies fluviales ainsi que les voies ferrées. C'est ainsi que les experts ont travaillé pendant 10 jours à l'université de Kinshasa pour produire deux types de textes. Les décrets portant création du fonds d'entretien des voies fluviales ferroviaires. Et le deuxième texte, c'était un arrêté interministériel qui fixe les ressources qu'il fallait collecter pour assurer l'entretien des voies navigables de la République démocratique du Congo. Ce texte était présenté à l'administration publique de la République démocratique du Congo et ils ont été aussi présentés au monde académique, aux experts scientifiques de la République démocratique du Congo, à l'université de Kinshasa, pour qu'ils donnent leur avis sur tout ce qui était en train de faire par rapport à cette voie. À la fin,
est-ce que ça a été présenté au Parlement?
Très bien, non, le texte, la création d'un établissement aujourd'hui ne passe plus par le Parlement parce qu'il y a une loi sur la création des établissements en République démocratique du Congo. Donc, ça serait un exercice facile. Chaque fois, si on veut créer, on va au Parlement. Donc, ça, c'est déjà réglé au niveau législatif. Ainsi, après la rédaction de ces propositions de texte, et aujourd'hui, je dois vous dire la vérité, que nous avons transmis les textes au Premier ministre. Donc, au stade actuel, la création du FONEF, qui est pour nous un établissement important pour mobiliser les ressources, pour entretenir les voies de la République démocratique, sur les plans des formalités, nous avons, au niveau du cabinet du président, nous avons fini ce travail et nous avons transmis les textes. Ça fait plusieurs mois.
Et pourquoi ça traîne?
Et pourquoi ça traîne? C'est la question qu'il faut poser au Premier ministre. Quand vous lisez le programme du Premier ministre, à la page 35,
Il a fait allusion à cela.
Il a fait allusion. Il parle même de l'accélération de la mise en œuvre du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Je suppose qu'avec cette accélération, d'ici là, le fonds sera créé. Mais de notre côté, nous avons déjà fini le travail. Il vous appartient, vous aussi, les journalistes, de poser la question au Premier ministre. Mais vous avez prévu la création du fonds neuf. Les textes vous ont été transmis. Nous sommes à quel niveau? Ça, c'est un devoir citoyen et c'est le contrôle de la population. Et ça, personne ne peut vous en vouloir. Et c'est le travail.
Et comment cette caisse-là sera alimentée? Quels sont les différents scénarios?
Comment le fonds devrait être alimenté? Nous n'avons pas inventé les taxes. C'est ça peut-être la difficulté pour la mise en œuvre du fonds. Nous avons, avec l'administration publique de la République démocratique du Congo, identifié des taxes qui sont déjà prélevées, mais qui ne servent à rien de l'argent qui entre dans la poche, dans les poches des individus.
Lesquels, par exemple?
Mais je vous donne l'exemple. Prenez la redevance logistique terrestre. Tout conteneur qui entre, qui sort de la République démocratique du Congo, paye des centaines de dollars. Mais c'est de l'argent qui devrait servir logiquement pour l'entretien des voies ferrées. Mais où est-ce que vous voyez ces voies être entretenues en République démocratique du Congo? Mais c'est de l'argent qui entre, à mon avis, dans les poches des individus. C'est pourquoi les experts qui ont travaillé avec nous avaient proposé que toutes ces taxes qui sont prélevées, mais qui ne servent pas à la population congolaise, ces taxes qui ne servent à rien, mais qui enrichissent les individus, devraient aller directement au niveau du fonds pour que l'entretien des voies navigables et des voies ferroviaires soit effectif en République démocratique du Congo. Je crois que l'expérience du FONER devrait être capitalisé en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lorsqu'une route se coupe en République démocratique du Congo, aujourd'hui, si nous avons des problèmes à tel endroit, à ce qui concerne les routes, nous ne demandons pas l'argent auprès de qui que ce soit. Nous allons auprès du FONER et le FONER finance les travaux. Et aujourd'hui, les choses sont... Je crois que dans les jours à venir, avec le travail de l'UGF, je crois que le FONER jouera un rôle important sur le développement. Et c'est pourquoi nous avions dit que le FONER était un pilier important de notre développement dans le secteur des transports. Et comme le gouvernement passé avait oublié un secteur important, qui est celui du transport fluvial et du transport ferroviaire, il appartenait au gouvernement qui venait, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, de combler ce vide en créant ce que nous appelons le FONER. Et le cabinet du chef de l'État a déjà fait ce travail. Nous avons, je le répète, nous avons transmis le texte au Premier ministre. Le Premier ministre a fait allusion au FONEF dans son programme à la page 35, le point 147, accélérer la mise en place du FONEF. Donc le problème, c'est à ce niveau.
Voilà, c'est au niveau du cabinet du Premier ministre pour... c'est à lui, n'est-ce pas,
de... C'est à lui de créer l'établissement.
De créer cet établissement.
Ça relève de la compétence du chef du gouvernement. Et nous avons fait déjà le travail préliminaire en rédigeant les propositions des textes.
En collaboration avec le ministère des Transports.
Bien sûr, en collaboration avec le ministère. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère des Transports, que je remercie, que je félicite, avait joué un rôle important dans les rédactions des textes portant création et opérationnalisation. Ce n'est pas un travail où le cabinet du président de la République a fait seul. C'est un travail que nous avons réalisé avec les experts des ministères, avec les experts du monde académique, avec la Fédération des entreprises du Congo.
Et vous avez fait les estimations sur ce que ce fonds peut
très bien
rapporter.
Je suis très content des questions que vous êtes en train de poser. Oui. Et je vous dis, c'est un travail intellectuel. Et je vous dis que les textes ont été rédigés à l'université, c'est-à-dire et tout avait été calibré. Les estimations tournaient autour de 100 millions de dollars par an que les fonds pouvaient mobiliser s'il y a du sérieux dans la collecte et la gestion de ces fonds. 100 millions de dollars, c'est pas quand même peu de choses.
C'est suffisant pour entretenir les voies navigables.
Ça, c'est ce qu'il faut mobiliser sans apport extérieur. Parce que quand nous étions en train de rédiger les textes portant création et opérationnalisation du FONEF, nous avons discuté avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Et c'est pourquoi vous avez vu le jour de l'inauguration des balisères multifonctions de la RVF au niveau des ports de l'STP par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le président de l'Union européenne, Charles Michel, là Tshisekedi, en même temps président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, et Charles Michel, le président de l'Union européenne, avait inauguré les balisères financées par l'Union européenne. Et vous avez suivi le discours de l'ambassadeur. Nous soutenons la création du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Donc, pour les partenaires, ils n'attendent que la création de cet établissement parce que pour eux, ils estiment que maintenant, la République démocratique du Congo commence à mobiliser les ressources. Si nous finançons un projet, nous sommes sûrs qu'il y aura la continuité parce qu'il y aura de l'argent. Mais maintenant, du fait qu'il n'y a rien, les balisères ont été inaugurer, comment ces balisages vont fonctionner. Vous allez repartir auprès de l'Union européenne pour demander de l'argent, de nous l'argent pour le carburant. Les gens ne nous prendront pas au sérieux.
Pas du tout.
Pourquoi la République, nous déjà, au niveau du cabinet du président, nous avons fait ce travail pour que les fonds soient mis en place. Et les textes, comme je l'ai dit, se trouvent au cabinet. Si le retard, c'est au niveau du gouvernement.
Bien, on va accueillir Docteur Kipasa Anissé depuis Kikwit et Jonas Mbombo de Guémena. Docteur Anissé Kipasa, bonjour.
Bonjour Jody. Bonjour à l'invité et à l'autre invité, malheureusement qui n'est pas là. Félicitations pour le travail qu'ils ont fait avec les experts scientifiques, comme il est dit. Mais je parle ici en tant que médecin de santé publique. Je reste sur ma soif. C'est un travail incomplet, à moins qu'il m'apaise. Je dis, il parle de Foner. Il faudrait copier le modèle de Foner pour le voie fluviale maritime. Et le Foner, à lui seul, ne peut pas prévenir les accidents sur la route. J'aurais bien voulu, peut-être qu'ils avaient fait ça. Il l'a dit lui-même tout à l'heure, là. Il a dit que les instruments juridiques qu'on utilise dans le domaine de la navigation maritime, fluviale et lacustre sont
dépassés.
Obsolètes, sont dépassés. Et on va s'enfermer à l'université pour faire juste créer quelque chose comme le Foner. Je voudrais revenir, je voudrais apporter ma contribution. Il existe un arrêté, l'arrêté du 18 décembre 2006, créant le CNPR, la Commission nationale de prévention routière. Monsieur l'expert, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous rentrerez, peut-être que je suis en retard. Imaginez déposer au bureau du Premier ministre quelque chose, un corollaire, des semblables, la création d'une commission nationale de prévention maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire, tout ce que vous voulez. Parce que quand vous regardez l'arrêté du 18 décembre 2006, l'arrêté ministériel numéro 409, CAB mine TVC 0134-2006, du 18 décembre 2006, portant organisation et fonctionnement de la CNPR. Là-dedans, il y a les volets, un article qui parle de la mobilisation de fonds pour l'entretien de route. Mon expert, je l'ai déjà suivi, lui, il est très bon. Le traitier pour les accidents, que ce soit les ATR ou les accidents sur le cours d'eau, les traitiers, il n'y a pas qu'un. Le cours d'eau, les balisages, mais il y a aussi les engins et celui qui conduit. Imagine un peu, je connais son excellence, monsieur le ministre des Transports, monsieur très rigoureux, très sérieux. Mais je prends par exemple, je crois qu'il ne va pas me contredire, sur la route, je parle pas du volet Foner de l'entretien de route. Vous voyez les gens qui conduisent les engins, je parle même pas du contrôle technique. Il n'y a même pas sur nos routes un testeur d'alcool. Pour voir le monsieur là qui va conduire, qui va se mettre sur le petite embarcation. Est-ce qu'il est, il a tous ses états? Est-ce qu'il est normal? De même le chauffeur. Est-ce que ce chauffeur là qui conduit? Il n'y a même pas un testeur d'alcool. Moi, j'apporterai mon cadeau à pour féliciter son excellence, monsieur le ministre des Transports. J'apporterai des testeurs d'alcool parce que nous, dans la division provinciale du Kwilu, quand on avait conçu quelque chose sur le plan de dans les cas d'accident ou des urgences, on a pensé à toutes ces choses.
Oui.
S'il vous plaît, essayez de penser à une commission nationale de prévention
maritime ou fluviale.
Maritime, fluviale, lacustre et ferroviaire. Vous allez voir que, et d'ailleurs dans cet arrêté là, l'article 9 détermine les autres services appelés à collaborer avec les divisions provinciales de la prévention routière. Je crois, il a très bien parlé. Je voudrais qu'on complète, au lieu de parler du modèle de Foner, parler plutôt de la Commission nationale de la prévention
maritime, fluviale et lacustre.
Et lacustre et ferroviaire.
D'accord. Merci, docteur Anissé Kipasa. Jonas Mbombo, vous êtes à Guémena. Bonjour. Bonjour, Jonas. Jonas n'est plus en ligne. Bien, professeur Jean Didieu.
Merci. Je voudrais apporter quelques éclaircissements par rapport à ce que le médecin venait de dire. Il parle de la qualité des engins, il parle de la qualité des conducteurs, le contrôle qu'il fallait assurer. Je crois que peut-être qu'il nous a suivi un peu en retard, parce qu'au début, j'ai dit qu'il y avait quatre raisons fondamentales qui étaient à la base des naufrages dans les voies navigables de la République démocratique du Congo. Quand il parle des engins, c'est ça que j'avais appelé la qualité des embarcations. Lorsqu'il parle des conducteurs, c'est là où je parlais de la qualité du personnel navigant. Donc tout ça était déjà développé. Peut-être qu'il nous a suivi finalement en retard. Alors, globalement, qu'est-ce que j'avais dit? C'est qu'il y avait deux défis importants que nous devons relever. Le premier défi était celui du financement. C'est pourquoi je suis en matière de financement, nous avions déjà travaillé pour que l'État mobilise les financements nécessaires pour entretenir les voies navigables de la République démocratique du Congo. C'est la création du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires dans notre pays. Le deuxième défi important, c'était le défi des textes réglementaires. Il revient sur ça.
Qui sont obsolètes, qu'il faut mettre à jour.
Et là, je dois apaiser notre ami, c'est que les gouvernants ne sont pas là pour dormir, les gouvernants sont là en train de travailler. Donc, il y a un travail, il y a une commission qui a été déjà mise en place entre l'Agence congolaise de la transition écologique et la direction de la marine pour voir dans quelle mesure on peut actualiser les textes qui régissent la navigation et le chemin de fer en République démocratique du Congo. Donc, il y a un travail qui est en train de faire. Mais pour le financement, de notre côté, tout a été déjà fini et nous avons transmis au gouvernement. Il appartient au Premier ministre de créer l'établissement et il appartiendra au ministre sectoriel, ministre des Transports, ministre des Finances et le ministre de l'Économie, de signer l'arrêté interministériel qui va fixer les taxes, les modalités de collecte et comment ces taxes peuvent être distribuées au niveau des services qui contribuent à l'entretien. Donc voilà, de façon globale, la réponse que je peux donner à notre ami. Tout a été fait sur le plan financier, l'FONF, et sur le plan des textes, le travail s'est fait pour actualiser les textes qui vont régir.
Et par rapport à la création de la commission de prévention...
Ça doit être prévu dans les textes. C'est dans les textes qu'on va aborder cette question. Exact. On verra, les experts sont en train de travailler, et ça sera prévu dans les textes qui vont régir dans les jours à venir les secteurs fluviaux en République démocratique du Congo.
Alors maintenant, en ce qui concerne le contrôle, il y a des commissaires fluviaux, tout ça. Et il semble qu'avant qu'une embarcation ne puisse quitter le port, on doit vérifier le manifeste pour savoir il y a combien de personnes et puis on donne l'autorisation. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quelqu'un a déploré la corruption qu'il y a souvent dans ces endroits-là.
Oui, je crois que la question de la corruption est connue de tous les Congolais, que l'administration publique de notre pays, tous nos services étaient plongés dans la corruption. C'est ainsi que je tiens à saluer le travail de la justice dans notre pays, ainsi que l'inspection générale des finances, qui sont en train de traquer tous les hommes politiques ou toutes les femmes politiques qui sont plongés dans la corruption et dans les détournements des deniers publics. Donc, sur ce plan, le pays est sur la bonne voie et nous sommes en train d'acheminer vers les jours meilleurs dans notre pays. Parce qu'il y a très longtemps...
Mais entre-temps,
ici,
on continue à enregistrer des morts.
Oui, mais le travail est fait. C'est pourquoi je vous ai dit... En fait, le véritable problème dans tout ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Parce que j'ai entendu les auditeurs dire ou les intervenants dire « Non, les gens ne peuvent pas naviguer la nuit. » Non, on ne peut pas interdire que les gens ne peuvent pas naviguer la nuit. Peut-être à des endroits extrêmement dangereux. Mais ce qui est important, ce qui pose problème... C'est le fait que les voies ne sont pas entretenues, les voies ne sont pas aménagées. Il n'y a pas de signalisation. C'est tout à fait normal que la nuit, lorsque vous vous engagez sur cette voie de la navigation, vous devez vous attendre à une catastrophe. Donc, nous devons trouver les financements nécessaires pour entretenir les voies, remettre les signalisations, aménager les voies, et les gens peuvent naviguer à des endroits autorisés la nuit. Et là où ce n'est pas autorisé, la journée, mais c'est possible en train de faire. Et là, comme je l'ai dit, le travail a été fait, nous sommes en train d'avancer. C'est pourquoi je voudrais ajouter mon frère Jody. La République démocratique du Congo s'est engagée dans ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale. Et qui dit échange, dit la circulation des personnes de leurs biens. Et qui dit circulation des personnes, il faut avoir des voies de communication.
Oui, il faut bien entendu. On va accueillir M. Didier Moukoma qui est de nouveau en ligne. Monsieur Didier, vous êtes là?
Oui, je suis de retour, je t'ai coupé, voilà.
Voilà, vous avez certainement suivi le professeur Jean-Didier Minengou qui a parlé de la création d'un fonds d'entretien des voies navigables et des chemins de fer.
Oui, justement, c'est tellement très 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 important parce que, comme vous le savez, financer vraiment les entretiens des voies navigables, c'est pas chose facile et ça coûte pas moins cher. Donc il faut beaucoup d'argent, c'est pour cela nous avons soutenu ces projets pour que la régie des voies fluviales et les autres services puissent avoir des moyens pour financer les projets d'entretien. Mais ce qui est vrai, bon, c'est depuis qu'on a mis en place ces projets, et ça tarde à à être mise en place. Vous verrez par exemple les cas des fonaires. Nous aussi, nous sommes en train de payer les fonaires, mais pourtant nous ne exploitons pas les routes en terre. Nous ne sommes sur la voie navigable. Mais à travers les carburants que nous sommes en train de consommer, mais nous payons les fonaires et n'en bénéficie pas. C'est pour cela qu'on s'est dit, mais pourquoi pas aussi, on peut les faire comme on les fait avec les routes. Donc nous avons aussi droit à aussi un fonds qui pourra aider la régie des voies fluviales à faire l'entretien des voies navigables, comme ça se passe partout ailleurs. Et de aussi, vous verrez que bon, malgré les petits montants que les amateurs sont en train de cotiser, disons de payer pour comme taxe à la régie des voies fluviales, ça ne suffit pas. Regardez aujourd'hui, par exemple, nous avons reçu un baliseur auprès de l'Union européenne. Le président l'a inauguré. Mais ce baliseur est où? Il est là en socialement, parce qu'il manque des frais de fonctionnement. Donc on ne doit pas toujours rester là-bas. Mais on a parfois, on reçoit des baliseurs et puis il n'y a pas de frais de fonctionnement. Donc il faut un fonds qui pourra aider à ce que ces services-là puissent fonctionner régulièrement. Et comme on le dit, le balisage, ça doit être permanent. Parce que vous savez, notre fleuve, nos cours d'eau, sont tellement trop mouvants. Les sables, ça bouge à tous les jours. Aujourd'hui, tu passes à gauche. Demain, tu reviens au même endroit, passé. Tu pourras pas passer. Nous avons besoin d'un balisage permanent. Par rapport à l'intervention de notre ami qui a demandé qu'on puisse mettre une commission, nous avons, si je dirais, parce qu'il existe déjà dans le cadre des transports fluviaux, ce qu'on appelle Conseil supérieur de la navigation. Ça existe, il y a une loi qui a créé ce conseil depuis plus de 20 ans. Mais jusque-là, ce conseil n'a jamais vu le son jour parce que, je sais pas, il y a un problème de financement ou je sais pas quoi. Le Conseil supérieur de la navigation, c'est un bon cadre qui pourra aussi faire que tous les intervenants se retrouvent, c'est-à-dire les ministères de transport, ministère de défense, ministère de l'intérieur, donc tous ces services qui sont concernés, qui interviennent dans le secteur de navigation, puissent se retrouver pour qu'il n'y ait pas de problème.
Bien, aujourd'hui, on va accueillir deux auditeurs, Glody de Bandonouville et Ngonga Stéphane de Mbujimaï.
Glody, je vais d'abord terminer une petite chose, une petite parenthèse ici.
Allez-y.
Vous remarquerez aussi, je voulais porter une précision. Vous savez, le secteur de transport fluvial, c'est un secteur qui est souvent négligé, que ce soit par le gouvernement, non, que ce soit par la présidente de la République. Regardez depuis même que le ministre des Transports actuel est arrivé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de transport fluvial? Non. On parle des avions, des trains, mais le secteur de transport, et pourtant c'est un secteur qui est très 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 important, qui a au moins plus de 25 000 voies qui sont navigables naturellement. Mais c'est un secteur qui est négligé, et pourtant un secteur qui est très important par sa quantité de marchandises à transporter, et va vendre son coût de transport.
Bien, voilà. Glody Bouanganga de Bandundouville, bonjour.
Bonjour,
on vous écoute, quelle est votre question?
Oui, merci. J'aimerais juste demander au professeur Jean de Dieminengo qui est là avec vous au studio. Monsieur le professeur, vous savez, dans notre pays, nous sommes en train de traverser toujours à des problèmes liés au naufrage, tout ça. Mais c'est vrai que vous avez élaboré les projets, mais moi j'aimerais que peut-être vous avez oublié une chose à ajouter. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité de proposer à l'État congolais que l'État congolais puisse mettre un bateau à marche, ça peut faire des flux migratoires de gauche à de l'est à l'ouest, qui peut permettre aussi aux Congolais de facilement voyager. Parce que vous savez, dans notre pays, il est difficile de voyager par des voies maritimes. Hein, s'il vous plaît, je vous dis, parce que si vous regardez l'état des balinières fait des flux au niveau de nos cours d'eau, vous allez voir que c'est un peu catastrophique, c'est un peu estomaqué d'entrer à l'intérieur parce que vous êtes en train de courir au danger. Je ne sais pas si les professeurs aussi peuvent proposer ce genre de situation. Je pense que ça peut aussi aider la population congolaise. C'est ça que je voulais dire pour aujourd'hui. Je dis et je vous remercie.
Bien. Stéphane Ngongo, vous êtes en Mbujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody.
Oui, Stéphane Ngonga, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, ce que j'ai à vous dire est que je remercie d'abord tous les auditeurs de la radio Okapi de nous avoir associé à ce débat, et ce que je peux contribuer, ce que je vais donner comme ma contribution est que d'abord le gouvernement doit veiller sur ça par rapport aux pertes de vie que nous remarquons de temps en temps. Alors il faut que le gouvernement puisse s'apaiser par rapport à ces points, et de deux, les commissaires fluviales doivent vraiment tenir compte des charges qu'ils mettent dans les bateaux, parce que nous constatons chaque fois il y a des pertes de vie. Alors ce n'est pas bien que cela puisse se produire de temps en temps. Et le chargement aussi des bateaux doit, donc lors des chargements des bateaux, on doit aussi surveiller comment sont les tonnages, on doit aussi respecter les tonnages. Là, je pense que ce sont des procédures qui peuvent être suivies pour que nous ne puissions plus arriver dans des moments de perte de vies humaines.
Bien, merci Stéphane. Professeur Jean Dédieu Milingo.
Merci beaucoup. Et je voudrais d'abord revenir sur ce que Didier Mokoma, mon ami, venait de dire. Et je crois que nous avons travaillé avec Didier Mokoma. C'est peut-être c'est le service présidentiel qui avait organisé cette activité pour écrire les textes sur le FONEF. Donc, la présidente de la République, tout comme le gouvernement de notre pays, ne néglige pas le secteur des transports fluviaux. Comme il a dit, nous avons autour de 25 000 kilomètres de voies. Vous avez des régions, des zones en République démocratique du Congo où c'est difficile de construire une route. Et la seule voie de communication pour ces populations qui habitent ces régions, qui habitent ces zones, ce sont les voies d'eau. Donc, pour nous, c'est la priorité. C'est ainsi que, sur instruction du président de la République, nous avons réuni les experts. Nous avons appelé la Fédération des entreprises du Congo pour travailler sur les FONEF. Donc, il n'y a aucune négligence là-dedans. Et Glody dit que, voilà, l'État pouvait avoir des bateaux pour assurer. Il ne se pose... Le problème ici, ce n'est pas un problème d'abord des bateaux. Ce n'est pas un problème d'unité. Le problème, c'est le problème d'abord de la voie qu'il faut entretenir. Lorsque la route ne se trouve pas dans un bon état,
Jean c'est tout à fait normal. Mais si les gens prennent des embarcations de fortune, ils prennent des baleinières qui ne sont pas sécurisées, il y a des risques.
Mais bien sûr.
On connaît des accidents.
Oui, mais...
Mais si le gouvernement mettait en place... Je me souviens, on avait inauguré Kokolo ici, avec pompe télévision. Mais juste après, plus rien.
Oui, aujourd'hui, c'est pourquoi je voudrais dire. Le véritable problème... Ce n'est pas le problème d'avoir d'abord des véhicules qui sont en bon état, etc. Si la route est en bon état, vous allez voir que ce sont des véhicules qui sont en bon état qui vont circuler. Aujourd'hui, les embarcations sécurisées ne peuvent pas aller dans les coins les plus reculés à cause des risques d'accident. Quelqu'un ne peut pas fabriquer son bateau aujourd'hui et va le mettre sur une voie qui est extrêmement dangereuse. Ils vont chercher à aller là où il y a moins de danger. Mais si les voies sont entretenues, mais bien sûr, que ce soit les bateaux de l'État, si la voie n'est pas entretenue, ce bateau n'ira pas là-bas. Les bateaux ne peuvent aller que là où les voies sont. C'est pourquoi nous estimons que l'entretien des voies et l'aménagement, c'est la priorité et tout découle de soi.
Si nous mettons en place des tests. On a parlé aussi de la surcharge. Le problème, on peut entretenir les voies, mais il y a aussi un autre volet important.
Oui.
La surcharge.
Oui, la surcharge, c'est une question que je vois qui peut être réglée. Je trouve ça conjoncturel. C'est-à-dire, si nous mettons en place un cadre réglementaire qui doit être respecté par tous, il n'y aura plus de questions de surcharge. C'est ainsi que nous avons dit au niveau de l'Agence congolaise de la transition écologique, au niveau du service présidentiel, les défis les plus importants, c'est celui de financement. Le deuxième défi, c'est la mise en place des textes. Pour le financement, nous avons rempli notre part de contrat. Pour les textes, nous sommes en train de travailler et nous allons actualiser les textes dans les secteurs de transport fluvial et ferroviaire en République démocratique du Congo.
Bien, notre confrère Paul-Richard Malengela de Mbandaka vient de poster ce message. La province de la Mongala a décrété un deuil de 3 jours depuis hier lundi 11 octobre, une semaine après un terrible naufrage sur le fleuve Congo. Au moins 61 corps ont été repêchés et il y a seulement une quarantaine de rescapés. Alors, Monsieur Didier Mokoma, par rapport à cette question des surcharges, pourquoi les armateurs veulent toujours beaucoup gagner, on surcharge les embarcations et voilà, ça conduit toujours à des accidents.
Bon, justement, c'est pour cela que j'avais parlé de ce cadre supérieur, disons, ce conseil supérieur de la navigation, parce que c'est un cadre aussi qui va déterminer qui est armateur. C'est pas n'importe qui vient, bon, parce que tu as de l'argent, tu achètes une unité, tu mets à l'exploitation. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des bateaux qui n'ont pas le temps de les contrôler et ce sont des personnes qui n'ont pas le professionnalisme qui utilise ces bateaux et puis ils surchargent. Mais quand ils surchargent, c'est-à-dire le bateau, par exemple, c'est un bateau qui peut te transporter 500 tonnes et le patron sait que le bateau transporte 500 tonnes, mais ils te mettent 700 et le 200 c'est pour eux. Donc ça, c'est un problème aussi de personnes, même en ce qui concerne le personnel navigant. Nous avons une école ici qui fonctionne depuis ça fait plus de 5 ans. Nous avons un personnel qualifié qui est sur le marché. Mais vous remarquerez que toutes ces personnes qui ont été formées à l'école de navigation n'ont pas du boulot et ceux n'ont pas étudié, ce sont des gens que les armateurs recrutent. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Je pense que c'est un problème de personnes. L'État doit prendre ses responsabilités, mettre de rigueur dans l'application de la loi. On sait que c'est très difficile, mais avec des efforts, je pense que ça pourra aller. Parce que vous voyez, par exemple, en ce qui concerne le transport des passagers, il est vrai que nous avons des bateaux ici à Lonata qui ont été réhabilités par le gouvernement. Mmh. Nous avons, je crois, les bateaux Kokolo et Gungu. Bon, ces bateaux ont été réhabilités avec des normes internationales, mais ces bateaux-là ne savent pas naviguer par manque de frais de fonctionnement. Ils sont là à Lonatra. Vous remarquez, nous avons aussi par exemple les bateaux Camagnola. Les bateaux Camagnola ont été réhabilités aussi. Les fonds ont été refaits, les moteurs ont été refaits. Mais il est là à Lonatra, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, il est en train de chômer là-bas. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles le gouvernement peut se donner la peine de façon à mettre des bateaux de transport de passagers. Parce que je vous signale aussi que tous les bateaux que nous avons sur le fleuve Congo, ce sont des bateaux de transport marchandises. Il n'y a pas un bateau passager sur le fleuve Congo.
Mais Didier Moukoma, les passagers souvent, Didier Moukoma, les armateurs entassent et passagers, chèvres, vous avez les ports, vous avez les sacs des manioc, etc. Mais c'est un cafouillage extraordinaire.
Mais justement, mais vous voyez, par exemple, les billets d'avion te coûtent, par exemple, pour Bumba, c'est dans les 300-400 $. Mais il n'y a personne qui paie, avec le coût de vie à Bumba, qui est ce villageois de Bumba qui peut te payer un billet pour venir. Donc c'est difficile, c'est pour cela, tous ces gens-là, malgré, pour nous, les passagers ne rapportent pas quelque chose. Mais par manque de moyens, tous ces gens-là, même si tu les chasses, ils sont toujours, ils viennent d'eux-mêmes en complicité ou bien sûr avec nos travail et le service de l'État. Parce que vous remarquerez, sur 200 ou 300 passagers sur un bateau, 100 personnes, ce sont des gens qui ont des feuilles de route, des militaires, des agents de l'ANR, des commissaires fluviaux, ainsi de suite.
Et
donc
ces
une complicité vraiment que nous savons pas gérer à notre niveau.
Et ces personnes-là ne sont pas répertoriées dans les manifestes.
Les manifestes, c'est compliqué, mais la DGM, vous verrez, la DGM s'occupe à autre chose que compter, par exemple, répertorier les passagers. La DGM, je l'ai toujours dit tout le temps, il s'occupe des fois à vérifier la marchandise qui rentre, ce qui n'est pas de ses responsabilités, mais il ne tient pas les manifestes. Par exemple, aujourd'hui, je suis sûr que dans tous ces villages-là, il y a les agents de la DGM, mais ils ne seront pas à mesure de vous donner le nombre de passagers à bord. Parce que quand les bateaux-là quittent leur port d'attache ou bien de chargement, tous ces services sont là. Et d'ailleurs, c'est dans la navigation, nous trouvons un pléthore de services dans des ports d'embarquement. Mais tous ces services, on se demande, ils font quoi dans des ports? Je pense que, en tout cas, il s'agit, c'est un problème aussi de personnes. Donc, l'État doit vraiment, je ne sais pas, prendre des dispositions pour que la loi soit respectée dans toute sa rigueur.
Bien, Didier Moukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo, merci et excellente journée.
Merci à vous. Merci.
Professeur Jean Desdieux, on poursuit avec vous.
Merci.
Alors, vous avez suivi a déploré comme problème.
Oui, je crois que Didier Moukoma a posé les problèmes qui existent et des problèmes qui sont connus de tous. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de nous plaindre, mais c'est de proposer des solutions aux problèmes dont la République fait face. Et comme je l'ai dit, pour le financement, le travail a été déjà fait. C'est ainsi que je demande à vous, les journalistes aussi, de nous aider, à demander également au Premier ministre qu'il a prévu de créer, d'accélérer la mise en place du FONEF. Nous sommes à quel niveau avec le FONEF? Ça, c'est important. Mmh. Et ce travail, il faut le faire. Parce que aujourd'hui, nous parlons des gens qui sont morts. Après 3 jours, on oublie. On attend que les gens meurent encore.
Et puis on va revenir encore.
Non, cette façon de faire, on n'en veut plus. Nous ne voulons pas que les gens mettent des choses sur les documents. À la fin, on met ça dans les tiroirs et personne ne s'en occupe. Ça, on ne veut pas ça. Donc nous voulons que tel que prévu dans le cadre du programme du gouvernement, que les FONEF soient créés et que les travaux. Je voudrais revenir sur un problème fondamental. Et je voudrais préciser une chose. Vous savez que pas seulement nous qui avaient un bilan présenté, mais le gouvernement, le Premier ministre, son programme va jusqu'en 2023. En 2023, le chef du gouvernement sera obligé de présenter un bilan auprès du président de la République à la population. Voici ce que j'ai prévu, voici ce que j'ai réalisé, voilà ce que je n'ai pas pu réaliser. Pourquoi je n'ai pas pu réaliser ça? En 2023, on ne va pas organiser un culte, on ne va pas appeler l'abbé Chollet pour célébrer une messe pour un bilan.
en 2023, nous serons tous obligés de dire voici ce que nous avons écrit dans le programme du gouvernement, voici ce que... Donc le Premier ministre est dans l'obligation des résultats, c'est pourquoi nous, en tant que service spécialisé du président public, nous sommes en train de ramener les éléments qui peuvent les aider à booster les choses pour améliorer les conditions de vie de la population. Je voudrais revenir sur la zone de libre-échange continental. La République démocratique du Congo s'est engagée sur cette voie. Qui dit zone de libre-échange, dit circulation des personnes de leurs biens. Qui dit circulation des personnes et de leurs biens parle de voies de communication. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle les transports multimodaux interconnectés. Il y a un mot qui s'ajoute, interconnecté.
Oui.
C'est-à-dire, là où la voie navigable s'arrête,
la route peut
prendre la relève.
Oui.
Et là où la route ce n'est pas possible, le chemin de fer peut prendre la relève. Donc, c'est dans ces conditions que la République démocratique du Congo peut participer avec plus d'efficacité et de responsabilité dans ce que nous appelons la zone de libre-échange continental. Dans le secteur routier, il faut le dire, je l'ai soulevé, il y a un pas important qui a été franchi en République démocratique du Congo avec la création du FONER. Mais dans le secteur de l'eau et du chemin de fer, c'est une catastrophe. C'est ainsi.
On attend la création du FONEF.
C'est ainsi que la création du FONEF est une obligation politique, c'est une nécessité pour la République démocratique.
Et on peut dire que c'est une urgence.
C'est une urgence parce que les gens meurent. Chaque mois, on dénombre près de 100 cadavres sur les voies navigables. Le gouvernement, ça doit être un problème pour le gouvernement. C'est pourquoi nous, au niveau du cabinet du président public, nous avons déjà fait travail et nous demandons à ceux qui ont le pouvoir de matérialiser ça, d'agir le plus rapidement possible au lieu de continuer toujours à attendre.
Professeur Jean Dédieu Milingou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, merci.
Merci beaucoup, Jody.
À la prochaine.
Merci.
Messieurs, c'est par ici qui s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Tati Mapoupo a assuré la coordination et la réalisation. À la technique, Paul Badianyama au micro, jeudi Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.